Avant de parler du thème proprement dit et surtout de l'enquête empirique que nous avons menée sur ce thème, juste un petit mot sur ces histoires de nouveaux objets de l'anthropologie. Comme vous le savez, il y a eu des thèmes classiques extrêmement répertoriés, ethnologiques, parenté ou rituels ou techniques en sont des exemples récurrents. Et puis, il y a eu une évolution, une transformation des objets à mesure que l'anthropologie elle-même se transformait dans, mettons, les 30 ou les 40 dernières années, de façon d'ailleurs assez considérable. Dans ces nouveaux objets, nous faisons partie, je dis nous parce que tout ce que je vais vous dire est le produit d'une recherche collective. J'en parlerai de façon plus précise tout à l'heure. Nous nous situons évidemment dans des objets qui sont, je dirais en quelque sorte, désexotisés et par là même qui font partie de ces nouveaux objets, qui n'étaient pas des objets classiques ou traditionnels d'anthropologie. Ceci étant, j'aurais tendance à dire qu'il y a nouveaux objets et nouveaux objets. On a vu sur le marché de l'ethnologie apparaître, je trouve, beaucoup de nouveaux objets qui se caractérisent par leur futilité ou leur caractère largement artificiel. Sans aller jusqu'à dire qu'il y a des thèses sur la façon de lasser ses souliers ou des choses de ce genre, il y a quand même pas mal, je trouve, de nouveaux objets qui n'ont finalement d'autre intérêt que celui que l'auteur de l'ouvrage ou du texte en question lui accorde. Nous pensons que nos objets doivent être non seulement intellectuellement intéressants, ce qui est évidemment une condition, d'ailleurs c'est à nous de les rendre intellectuellement intéressants, mais qu'ils ont un intérêt intellectuel, mais qu'ils sont d'autant plus intéressants qu'ils sont aussi socialement intéressants, c'est-à-dire que ce sont des sujets qui font problème dans la société, d'une façon ou d'une autre, autrement dit, qui sont lestés d'enjeux sociaux. Donc je dirais que parmi les nouveaux objets, nous sommes dans la case nouveaux objets lestés d'enjeux sociaux par rapport aux cases nouveaux objets que je qualifierais de futiles ou de plats. Le deuxième point, vis-à-vis de ces nouveaux objets, nous avons, là aussi j'emploie ce terme nous parce que c'est le produit au-delà même de cette équipe de réseau de recherche ou d'équipe de recherche que nous avons, qui se sont développées depuis une bonne quinzaine d'années. Je pense que nous avons une approche d'un certain côté assez classique sur le plan des méthodes de travail, au moins sur le fait que nous mettons au premier plan la recherche empirique sérieuse. Autrement dit, que nous essayons de faire de la recherche qualitative de terrain rigoureuse. Alors parfois on peut penser que la recherche qualitative et la recherche rigoureuse ne vont pas de pair. Nous pensons que ça peut aller de pair, que l'anthropologie de terrain ce n'est pas n'importe quoi et qu'il faut une assez grande vigilance empirique pour cela. Le point sur lequel peut-être nous avons innové, c'est que tous nos programmes, et celui dont je vais vous parler c'est le cas, sont des programmes où la part collective est forte. Vous savez que l'anthropologie est quand même une discipline fondamentalement individualiste, ou qu'il a été longtemps. Il y en a d'autres, bien avant nous, bien sûr, qui ont fait des travaux collectifs un peu sérieux, je veux dire sérieusement collectifs, qui ne soient pas qu'un agrégat de recherche individuelle empaqueté pour un financement, ce qui est souvent le cas des recherches collectives. Mais disons que cette recherche, comme certaines autres que nous avons menées, les uns et les autres, sont le produit de dispositifs collectifs de part en part. C'est-à-dire de la définition de la problématique jusqu'au travail de terrain, jusqu'au travail d'analyse et de rédaction, c'est le fruit de réelles dynamiques collectives, avec pour cela des dispositifs un petit peu éventuellement originaux que l'on met au point ou que l'on se bricole plus exactement, ce n'est pas ici l'objet d'en parler. Mais donc il y a une forte composante collective dans cette recherche sur la corruption sur laquelle je viens maintenant. Nous avons travaillé sur la corruption en Afrique, d'abord parce que nous étions, comme tous les chercheurs travaillant en Afrique, cognés à la corruption comme un phénomène un petit peu inévitable, c'est-à-dire que la vie ou la survie quotidienne dans une ville, et même d'une certaine façon dans les campagnes africaines, implique la maîtrise d'un certain nombre de pratiques de corruption, de transactions corruptives, enfin, que l'on peut rentrer là-dedans. Mais au-delà de ça, notre intérêt allait un petit peu plus loin, puisque ce que nous essayons de faire à quelques-uns là aussi depuis quelques années, c'est au fond une sorte d'anthropologie de comment fonctionne l'État ou les segments de l'État ou les administrations dans un autre temps, althusserien, on aurait dit les appareils d'État, ça avait une connotation autre à l'époque, disons de façon plus descriptive, qu'est-ce qui se passe du côté des services publics actuellement en Afrique ? Or, ce qui se passe, c'est qu'on voit un énorme décalage, attesté par tout le monde, c'est pas nous qui l'inventons, attesté par tous les acteurs, entre les organigrammes officiels, les discours officiels, sur comment est l'État, et puis, je dirais en quelque sorte, l'État pour de vrai, tel qu'il se passe dans les interactions quotidiennes avec les citoyens, avec les consommateurs d'État, avec les usagers, avec tout le monde. Ce décalage est particulièrement frappant, et donc il pose le problème de qu'est-ce que c'est au fond que la gouvernance au quotidien en Afrique. Quand je dis gouvernance, je ne le prends pas dans le sens de la Banque mondiale, un petit peu moralisateur de la bonne gouvernance, et là aussi dans un sens descriptif, comment se passe le public management, la gestion ordinaire dans les administrations africaines. Or là, il y a, disons, une assez grande méconnaissance de ces mécanismes. Et pour nous, donc, la corruption était une entrée vers cela. C'était d'ailleurs, ce qui était assez curieux, c'est que au début, quand on a commencé à enquêter de façon systématique sur la corruption, on était un petit peu inquiet. Et évidemment, on n'a pas présenté notre thème sous cet intitulé. On a dit, on fait une étude sur les relations entre les administrations et les usagers, pour avoir les permis de recherche et souvent même pour présenter nos entretiens. Et puis, on s'est aperçu que les interlocuteurs tous introduisaient d'eux-mêmes, sans qu'on ait besoin jamais de les forcer, le thème de la corruption, qu'ils parlaient aussi de bien d'autres choses que de la corruption, c'est-à-dire de ce problème de gouvernance au quotidien, et on s'est aperçu que ça rejoignait exactement ce qu'était notre propos, en quelque sorte stratégique de fond, qui était bien exactement celui-là. Donc, tout baignait, en quelque sorte. Ce que nous avons étudié aussi, ce n'est pas toutes les formes de corruption. Certaines nous échappent parce qu'elles relèvent, je dirais, de travail de policiers ou de journalistes ou de magistrats. Encore que là, les magistrats, on pourra en parler, sont eux-mêmes profondément corrompus. Mais c'est la grande corruption. De la grande corruption, nous n'avons pas étudié. Ce n'est pas notre business, ce n'est pas notre spécialité. C'est trop gros pour nous, c'est trop compliqué pour nous. Nous avons par contre étudié ce qui est plus du ressort de l'anthropologue ou du sociologue. Je précise aussi, parenthèse, que je fais une équivalence à peu près complète entre sociologue et anthropologue. Disons qu'on fait de la sociologie qualitative ou de l'anthropologie, peu importe. Nous nous sommes intéressés à cette petite corruption, c'est-à-dire à celle, comme dit le titre de ce numéro de Politique africaine, au quotidien, celle que l'on rencontre de façon courante dans les rapports entre les gens et les fonctionnaires et les administrations. Donc, c'est un peu natif. Il est clair qu'il y a un continuum, que la petite corruption n'est pas un monde séparé nécessairement de la grande corruption. Vous savez, quand on fait un objet de recherche, on est obligé de le découper, parce que sinon, on ne peut pas tout étudier en même temps. On est obligé de faire des choix. Et ça, c'est un de nos choix que d'étudier la petite corruption. Et on a quand même fait, dans 3 pays, une équipe relativement importante d'environ 1 an et demi de travail là-dessus. Et c'était déjà. Et on a l'impression d'être loin d'avoir épuisé ce qui était le sujet de la petite corruption. Donc voilà pour limiter un peu les choses. Deuxième aussi précaution, un peu préliminaire. On a pris une définition extrêmement large de la corruption qui ne correspond pas à la définition juridique, qui est très précise de la corruption. Donc dans corruption, on parle aussi bien de détournement de fonds, de trafic d'influence, d'abus de bains sociaux, de toute une série de pratiques qui, du point de vue juridique, ne sont pas de la corruption au sens strict. On a pu employer le terme de complexe de la corruption pour désigner ça, et ça parce que beaucoup d'acteurs mettent tout ça sous le nom générique de corruption. Mais ce n'est pas les frontières de la corruption tellement qui nous concernent que l'ensemble de ces mécanismes, si vous voulez, de dysfonctionnement qui se rattachent à la corruption, en sens qu'il s'agit souvent d'abus au profit d'intérêts privés, de charges publiques, pour employer des définitions très classiques et larges de la chose. Mais enfin, on a vu une définition le plus large possible de ces phénomènes et qui nous a amené, d'ailleurs, dans l'ensemble des dysfonctionnements, ou des problèmes de fonctionnement différents, disons, des administrations. Sur ce plan, des études sur la corruption, il y a une énorme littérature. Il y a maintenant un corruption study business qui s'est mis en place, et surtout aussi un anti-corruption business qui s'est mis en place. C'est devenu un enjeu d'argent, d'ONG, de science, etc., la corruption, petit à petit. En tout cas, c'est en train de le devenir maintenant. Vous savez qu'il y a une ONG qui est spécialisée, qui s'appelle Transparency International, qui publie des index chaque année. Il y a une énorme littérature dessus, mais cette littérature est, de façon très significative, dominée par des travaux de sciences politiques et d'économie, pour l'essentiel, et qui se situe à des niveaux très généraux, en général très macro, et qui se base justement, un peu comme les indices de Transparency International, sur des sortes de sondages d'opinion qui sont faits auprès d'hommes d'affaires ou de personnes, de personnalités, sur ce qu'ils estiment être la corruption dans tel ou tel pays. C'est ça qui sont la base des études en général sur la corruption. Nous pensions que notre discipline, disons socio-anthropologie, pouvait apporter des matériaux empiriques complètement nouveaux et nécessaires pour comprendre les mécanismes. Nous travaillons sur des mécanismes, essayer de comprendre ce qui se passe, quels sont les processus, quelles sont les représentations des acteurs sur la corruption, quels sont les codes qui sont utilisés autour de la corruption, quelles sont les légitimations ou les accusations qui en sont données. Et tout cet ensemble de phénomènes était jusque-là quasiment pas documenté, à part quelques études précurseurs dont je vous passe les noms ici, mais que vous pourrez trouver dans les textes. Donc, pour nous, il s'agissait d'un enjeu important que de ne pas parler de la corruption comme ça, parce que tout le monde a quelque chose à dire de la corruption, tout le monde a des anecdotes à raconter, tout le monde a, mais de le faire sur une base documentée solide et irrécusable. Alors, pour ça, nous avons mené des enquêtes dans 3 pays. Bon, là aussi, on a circonscrit, on peut dire pourquoi pas 5, maintenant c'était 3, parce qu'on avait en fait des équipes disponibles dans ces pays. C'est une collaboration qui s'est faite entre une équipe de 6 chercheurs, un chercheur béninois, un chercheur nigérien, un chercheur italien, un chercheur allemand et 2 chercheurs français. Donc une équipe assez internationale, avec le recours à l'embauche d'une série de collaborateurs de niveau maîtrise, d'étudiants des 3 pays concernés. Je précise aussi que l'équipe, la grande majorité de l'équipe parle toujours une des langues africaines dans les pays où on travaillait. Et que parmi les collaborateurs qu'on a recrutés, donc étudiants de niveau maîtrise, on en a maintenant 3 d'entre eux qui sont continuants en études doctorales et qui maintenant rejoignent l'équipe à plus long terme en termes de potentiel de chercheurs, qui n'ont pas été donc simplement des collaborateurs occasionnels. Et c'est une enquête dans laquelle le laboratoire à lequel je participe à Niamey, par exemple, le directeur de ce laboratoire, qui est un chercheur nigérien, a été le responsable de l'enquête sur le Niger. Nous avons travaillé dans ces 3 pays sur, évidemment, un certain nombre de domaines aussi circonscrits. On ne pouvait pas tout faire. Alors, je pense que peut-être dans la discussion, parce qu'à tous les coups, lorsque je présente ces travaux sur la corruption, on me dit, mais pourquoi vous n'avez pas travaillé aussi sur tel domaine? On me dit, pourquoi pas sur l'armée? C'est très intéressant. Pourquoi pas sur l'université? C'est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi la corruption à l'université se développe maintenant, inégalement, mais se développe aussi. Pourquoi pas sur la presse, etc. Alors, voilà. Bon, on a choisi. Et ce qu'on a choisi, c'était les domaines suivants. La justice. La justice, les douanes, les transports et tout ce qui est le rapport entre les transporteurs ou les transportés et les corps en tenue, gendarmerie, police, mais aussi parfois eaux et forêts pour les transports de bois, les marchés publics municipaux, tels que les petites villes passent pour faire des puits, des marchés, des autogares, des constructions de santé, etc., et la santé, c'est-à-dire les services publics de la santé, les formations sanitaires publiques. C'est déjà pas mal, hein, vous vous rendez compte. Et ça veut dire que dans chacun de ces domaines, dans chacun de ces pays, il y a eu en général environ 2 mois d'enquête par secteur dans un pays donné, essentiellement dans les capitales, plus dans chaque pays de 1 ou 2 petites villes de province. On a fait aussi une grande partie d'enquête collective, c'est-à-dire toute l'équipe a fait des enquêtes dans les 3 pays, dans les 3 secteurs. Donc il y a eu un gros brassage dans ce qui a été fait. Je ne vais pas vous présenter tous les résultats, parce que là, on y serait jusqu'à demain matin. Je vais donc choisir. Ce que je veux simplement dire aussi, toujours pour finir cette un peu trop longue introduction, mais qui est plus qu'une introduction, c'est que ce qu'on a trouvé et ce que je vais vous rapporter, vous allez dire, mais au fond, ça a un air de famille, j'ai déjà entendu parler de ça ici. Effectivement, il n'y a pas de traits discriminants dont on pourrait dire ils sont présents en Afrique et ne sont pas présents en Europe. On les trouve partout. Mais ce qui change, c'est le dosage. La sauce n'est pas la même. Il y a les mêmes composantes, hein. Il y a du sel, du poivre, du cumin, du machin, mais le dosage est complètement différent. C'est ça, la grosse différence. C'est pas qu'il y a des phénomènes de corruption qui soient inédits, on trouve les mêmes mécanismes, hein, sur les marchés publics, la douane, ou les... mais ils sont, disons, souvent en Europe sectorialisés. Quand ils sont sectorialisés, ils peuvent d'ailleurs de grande ampleur. Ça, c'est la grande corruption, c'est un autre problème. Relativement bon, sectorialisés et sont relativement... je dirais, enclavé dans un fonctionnement ordinaire des administrations qui n'est pas analogue à cela. Donc ça apparaît comme des exceptions, si vous voulez, d'une certaine façon. Exceptions présentes partout, exceptions non négligeables, alors que ce qui nous est apparu de façon massive, c'est leur omniprésence dans les administrations africaines des trois pays concernés. Je veux dire aussi, toujours dans cet aspect comparatif, qu'on a quand même aussi travaillé, on a fait un séminaire pendant 3 ans à Marseille sur la corruption dans le monde, avec des spécialistes de l'histoire romaine, de l'Empire ottoman, de l'Italie, de la Suisse contemporaine, qui venaient faire des expositions sur la corruption, de façon à avoir un tableau comparatif pour situer nos propres études empiriques sur l'Afrique dans des études plus générales sur la corruption dans le monde, la corruption en Chine, la corruption, etc., etc. Donc, si vous voulez, ça fait aussi partie d'un, disons, d'une sorte de programme de recherche virtuelle plus vaste, mais dans lequel nous sommes qu'une petite partie sur ce que font de nombreux chercheurs sur la corruption dans le monde entier. Je vais ici insister sur un des aspects qui est dans ce numéro de politique africaine, qui est, me semble peut-être le plus significatif, qui est l'enchâssement de la corruption dans le fonctionnement quotidien des administrations. Je prends le thème enchâssement, c'est un terme qui a été popularisé en anglais, c'est embeddedness, par une sorte d'historien et anthropologue bien connu qui s'appelle Polanyi, qui l'avait utilisé dans un autre sens d'ailleurs, d'une certaine façon que le nôtre, mais on ne va pas entrer dans les trucs trop techniques. Mais enchâssement signifie bien que la corruption n'est qu'un élément qui renvoie par tous les bouts à un environnement administratif qui en quelque sorte communique sans arrêt avec elle et dont elle ne peut être disjointe. Et ça, je pense, c'est une des grandes leçons. D'ailleurs, ça pose de redoutables questions en termes de conséquences opérationnelles et de termes de lutte de la corruption. C'est que, justement, il est extrêmement difficile d'isoler les phénomènes dits de corruption de l'ensemble des dysfonctionnements auxquels sont soumis les administrations et les services publics dans les différents pays africains. Une des choses qui nous a d'ailleurs frappé, c'est que dans ces trois pays, qu'on avait pris au départ parce qu'ils étaient assez différents, le Sénégal, la plus vieille expérience dite de démocratie, la plus vieille expérience de contact avec l'État français, sorte d'enfant chéri des donateurs, le Niger qui au contraire est un peu dernier de la classe en termes de coups d'État successifs, indice de mortalité maternelle, d'analphabétisme les plus catastrophiques du monde, etc. Et puis le Bénin, un petit peu au milieu avec son expérience démocratique, on se disait, on a quand même des chances de trouver des choses assez différentes. Et puis patatras, pas du tout. C'est-à-dire que tous les mécanismes que nous avons trouvés dans ces trois pays sont analogues. Et ça a été une de nos grandes... On ne pensait pas que c'était à ce point par an. Et ça a été assez confirmé. On a fait après, dans le résultat de nos enquêtes, on a fait une sorte de corruption circus. On a fait toute l'équipe et on est allé faire 2 jours de restitution à Niamey, 2 jours de restitution à Cotonou et 2 jours de restitution à Dakar avec toute l'équipe. Et dans chaque pays, on présentait non seulement les résultats sur le pays, mais aussi les résultats des 2 autres pays pour qu'ils ne se sentent pas un peu isolés. Donc tout le monde voit que... Et c'était chaque fois confirmé à quel point c'était des phénomènes identiques qu'on trouvait. Alors bien sûr, un hôpital de Dakar n'est pas la même chose qu'un hôpital à Cotonou, le service des douanes... Mais de fait... les mécanismes fondamentaux sont vraiment exactement les mêmes. Il est probable que c'est valable pour une grande partie des pays, en tout cas d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. Il est probable aussi qu'il y a des situations en Afrique qui sont différentes par excès ou par défaut. Il y a un pays comme le Botswana est souvent réputé comme étant un pays relativement peu corrompu et donc pourrait être différent, comme d'une certaine façon a pu l'être le Burkina d'avant la mort de Sankara. Il est vrai aussi qu'il y a des pays qui, par contre, sont au-delà de ce que je vais vous décrire, que l'ex-Zaïre, Congo-Kinshasa, et par certains égards probablement le Cameroun ou le Nigeria, dépassent d'une certaine façon, ce que je vais vous dire. Mais sinon, je pense que ce qu'on décrit est une situation modale assez générale dans d'autres pays. Mais nous, parce que nous avons fait quand même quelques enquêtes dans d'autres pays, sur la santé en Mauritanie, sur l'armée en Centrafrique, etc., ça va un peu dans le même sens. Ceci étant, tout ce que je vous dis n'est valable de stricto sensu que pour les trois pays et les secteurs dans ces pays que nous avons étudiés. Il faut que les choses soient effectivement claires. Alors, nous avons d'abord dégagé, si vous voulez... Oui, on a aussi, bien sûr, rencontré, en particulier dans ces... ça a été évident dans ces restitutions, on a rencontré, bien sûr, aussi des fonctionnaires, parfois, je veux dire, non corrompus. Et justement, ces fonctionnaires non corrompus étaient... étaient souvent extrêmement amers, étaient souvent extrêmement isolés, étaient considérés que leur lutte contre la corruption avait été un échec, ce qui est bien le signe du caractère un peu généralisé du phénomène et des problèmes que pose d'être dans un tel environnement autre, différent, c'est-à-dire de ne pas rentrer dans l'ensemble de ces pratiques qui sont tellement banalisées qu'elles deviennent complètement normales pour presque tout le monde, en tout cas. Oui et non, elles deviennent normal pour presque tout le monde, mais en même temps, elles sont aussi stigmatisées. Et ça, c'est un autre aspect fort, je ne vais pas le développer. On a fait dans ce texte de Petit Africaine un article sur la sémiologie populaire de la corruption, spécialement, en particulier deux langues, c'est un article. Tout ce que je vous dis, je le fais au nom de Giorgio Blundo et moi-même, puisque nous sommes les deux à avoir dirigé ce numéro, et l'article sur la sémiologie populaire, on l'a fait, lui à partir du Wolof, moi à partir du Zarma. Mais c'est valable aussi pour le fond, par exemple, qui est une des langues donc, du Bénin. Et ce qui était frappant, au-delà des termes par lesquels la corruption est dite, comment elle est faite, c'est que les stratégies discursives des acteurs, comment ils parlaient de la corruption, c'était sans arrêt des allers-retours entre accusation et légitimation. On était sans arrêt et entre des gens qui disaient « Oui, la corruption, c'est dégueulasse, ça pourrit le pays, c'est une catastrophe, j'en ai marre, on nous raquette, on machin. » Et en même temps, les mêmes qui disaient « Bah oui, mais c'est normal, on ne peut pas faire autrement, etc. » Un petit peu comme au fond, on dénonce la corruption des autres et on légitime la sienne. Ce qui est d'ailleurs, à tous notre position quand on est là-bas, parce que tous, on est aussi acteurs dans ces pratiques. Il n'y en a pas parmi nous qui n'ait jamais été dans la situation de donner un billet à un policier pour être tranquille, etc. Donc on est aussi corrupteur. C'est un système dans lequel tout le monde est pris et dans lequel l'ambivalence est constitutive. Tout le monde à la fois dénonce la corruption, s'en lamente, et ce n'est pas un discours simplement de la Banque mondiale. Ce n'est pas un discours de l'extérieur, c'est aussi un discours que l'on trouve au fond des campagnes. Et en même temps, tout le monde la justifie, la légitime pour un certain nombre d'arguments dont on pourra éventuellement discuter. Alors, en ce qui concerne maintenant, je vais surtout insister sur un certain nombre de stratégies de corruptives et sur leur lien avec les pratiques administratives usuelles, donc je dis réelles, différentes des pratiques officielles. Ceci étant, avant, on avait fait une sorte d'inventaire, en quelque sorte, des formes élémentaires de la corruption. Alors, l'inventaire des formes élémentaires de la corruption, je vous le fais au pas de course. On a distingué la forme. Toutes les formes de corruption ont un rapport avec des pratiques non corruptives extérieures et courantes. L'un, c'est la commission, une première forme. Donc, c'est celle qui fait que l'on rétribue une intervention d'un fonctionnaire qui vous donne accès à une exemption ou à un bénéfice illicite. Parfois, cette commission, d'ailleurs, peut être entière, c'est-à-dire que vous devez donner une rente à celui qui vous a fourni un avantage. C'est le cas typique du fonctionnaire de douane nommé à un poste aux frontières dit juteux dans le vocabulaire du français local et qui doit donc redistribuer à celui qui l'a nommé, au nominateur, une rente prise sur ses propres bénéfices. C'est une pratique extrêmement courante. Voilà la commission. La gratification, c'est le fait que tout service que l'on vous a rendu, que un fonctionnaire vous a rendu, et on peut considérer comme service le simple fait de faire son travail de façon efficace ou avec une certaine diligence, mérite rétribution, mérite gratification. Alors vous direz, c'est de l'ordre du cadeau. Et bien des gens disent effectivement, mais c'est du cadeau. C'est pas. On a eu dans les restitutions, par exemple, dans toutes nos restitutions, les gens en ont plutôt rajouté sur ce qu'on disait. On était un petit peu inquiets dans la restitution. Voilà, on se trouve avec des inspecteurs d'État, des anciens directeurs des douanes, machin, ils vont tous nous tomber dessus sur ce qu'on dit. La réaction était plutôt, les gens, au bout d'un moment, parce que, bon, pour différentes raisons, en rajouter encore sur la description, sauf un seul cas qui nous est arrivé, c'est le directeur de la douane du port de Cotonou, qui est le plus haut lieu de trafic qu'on puisse imaginer dans ce qu'on a étudié, et qui au début a une petite attitude dénégatrice, et après il a cédé, et il a pris comme exemple, il disait, mais regardez, vous parlez de corruption. Et par exemple, moi, l'autre jour, en tant que directeur, il y a un tel grand commerçant qui voulait qu'on lui dédouane ses marchandises. Moi, j'ai pris le dossier, je lui ai dédouané ça en 2 heures. Le type, après, est venu et m'a donné 500 000 francs CFA, c'est-à-dire 5 000 francs français. C'est quand même pas de la corruption, ça. Donc, vous voyez, le type de mécanisme qui fait que... Bon, évidemment, les autres ont rigolé. C'est pas nous, je veux dire, en tant que chercheurs, qui disent « Ah, mais ça, c'est de la corruption ». Pour tous les autres gens, ils disaient « Mais il se fout de notre gueule, lui enfin, ». Donc, vous voyez, tout le jeu social qu'il y a autour de ça, lui, le trouvait légitime, mais les autres, ses petits copains, le trouvaient pas non plus légitime. On ne sait jamais dans quelle mesure c'est légitime ou pas, toutes ces histoires. Donc, deuxième, la gratification. Surtout que les cadeaux peuvent être sollicités, attendus. Enfin, bon, il y a tout un jeu autour du cadeau. Troisième, vous le connaissez bien, puisqu'il se pratique aussi, comme tout ce que je dis, hein, on le retrouvera ici. Je vous ai dit que c'est le dosage qui compte. Le piston. Bon, évidemment, le piston, c'est-à-dire le favoritisme qui fait qu'on est dans un système où les nominations se font suivant la recommandation de façon systématique. Les nominations sur la base de la compétence d'un profil de poste sont à peu près totalement inexistantes, et cela suit des filières, si vous voulez, enfin, le mode d'une sorte d'échange généralisé de faveurs. Vous êtes tellement redevable à chacun de plein de faveurs que vous devez sans cesse les rendre. Et donc, ce fonctionnement d'un système généralisé de faveurs qui est au centre du piston est permanent. Une quatrième forme qu'on a distinguée, c'est la rétribution indue d'un service public. Cette fois-ci, ce n'est pas un service illicite, c'est un service normal. Et pour qu'on vous fasse le service normal, vous devez d'abord payer. Ça, c'est une forme assez classique. Autrement dit, c'est une sorte de privatisation de l'acte administratif. Il est impensable d'obtenir un extrait d'état civil, un extrait de naissance, pardon, un certificat de nationalité, qui sont des pièces qu'on vous demande tout et pour rien, sans arrêt, si vous ne donnez pas quelque chose à la secrétaire ou au planton ou au commissaire ou au policier qui fait ça. C'est impensable. Ou à la secrétaire du greffe, etc. C'est totalement impensable. Sinon, vous n'aurez jamais votre pièce. Je sais plus quelle forme, la cinquième, ce qu'on appelait le tribut ou le péage. Là, il n'y a aucun service qui est fourni, mais si vous ne donnez pas, de toute façon, vous ne passez pas. C'est un phénomène que l'on trouve évidemment particulièrement sur les routes. Le péage au sens strict, enfin, le péage dans notre sens, qui est exercé par un certain nombre de brigades diverses, qui fait vous ne passez pas si vous ne payez pas. Un sixième forme qu'on a distingué, là on a pris un terme qui vient du vocabulaire populaire français, on n'a pas trouvé l'équivalent, la perruque. Vous savez ce que c'est la perruque, donc, hein, le fait que les ouvriers sur les machines de l'entreprise fassent du travail pour eux, hein, c'est le truc classique. Dans notre secteur, l'université, c'est les dactylos des centres de recherche qui tapent des thèses sur la machine pendant les heures de travail, mais qui sont rétribués personnellement. C'est une sorte de tolérance. Disons que là, la perruque va assez loin, assez loin de ses formes et quasiment systématique. L'usage, on peut y voir aussi une sorte de forme d'extension démesurée des avantages de fonction. Tout poste est considéré comme fournissant des avantages de fonction à l'infini, dont on doit abuser au maximum. Une autre forme, alors qui elle est classique, que vous connaissez aussi, c'est le détournement, le pur et simple, c'est-à-dire l'appropriation privative de matériel ou d'argent. Le détournement d'argent est connu, mais par exemple, toutes les cliniques de Niamey, Cotonou et Dakar sont équipées de matériels médicaux qui ont été piqués par les médecins dans les hôpitaux publics. C'est notoire et sur la place publique partout. Voilà, alors ça, c'est un petit peu les niveaux, vous voyez. On a essayé de distinguer ces formes parce qu'elles étaient au plus près des pratiques des acteurs. C'est une typologie que nous avons produite, mais une typologie qui essaye d'être au plus près des comportements, qui n'est pas exactement la typologie juridique, qui la recoupe par certains aspects. Donc, surtout, je voudrais maintenant insister sur ce que nous avons appelé les stratégies corruptrices. C'est-à-dire que ces formes élémentaires s'insèrent dans des stratégies un petit peu plus vastes, un petit peu plus à moyen terme ou plus larges, que nous avons appelées stratégies corruptrices. Alors là aussi, je vous en énumère ou commente quelques-unes. Le premier, c'est l'importance qui nous a beaucoup frappé des investissements corruptifs. La corruption, ce n'est pas simplement une transaction au coup par coup. C'est bien souvent un investissement ex ante que font en particulier les grands commerçants, par lequel ils s'assurent des bonnes volontés éventuelles des fonctionnaires. Deux exemples. Un juge fraîchement nommé dans une petite localité du Niger voit le commerçant qui vient lui donner 1 000 000 CFA. Il dit, c'est rien, cadeau de bienvenue. C'est un cadeau de bienvenue. Si vous savez, dans les conditions du Niger, il y a 10 mois de salaire d'impayé, un juge qui peut se permettre de refuser un cadeau qu'on lui fait d'un mois de 1 million CFA, c'est-à-dire 10 000 francs en français, je ne sais pas en combien en euros, c'est vraiment difficile, c'est presque impossible de résister. Ou alors il l'équipe en lui donnant un climatiseur, un congélateur, ou je ne sais pas quoi. Chose classique. Classique. C'est un endroit aussi où nous avons enquêté, et je dois vous dire que nos enquêteurs ont bénéficié du système, le commerçant tient petit déjeuner ouvert pour tous les fonctionnaires. C'est dans une ville frontalière du Niger et du Bénin. Et le petit déjeuner, c'est pas rien hein, localement. Et donc, tous les fonctionnaires viennent prendre le petit déjeuner le matin aux frais du dit commerçant. Et c'est valable pour les fonctionnaires en tournée. Et ça a été donc valable pour nos enquêteurs qui ont pris leur petit déjeuner pendant 15 jours aux frais de ce commerçant. C'est un investissement. Il ne demande rien directement en échange. Mais vous imaginez bien que ce n'est pas complètement anodin. Bon, on a beaucoup d'exemples de ces investissements corruptifs. Deuxième stratégie, elles s'opposent pas, hein, ce sont des stratégies complémentaires. Je ne fais pas une liste où c'est soit ça, ça, c'est souvent et. Deuxième stratégie, la constitution de relations pérennes, ça va un peu avec, de relations durables. On voit souvent la corruption comme une transaction, là aussi, coup par coup. Je paye, tu me donnes, je m'en vais. Or, bien souvent, on voit se constituer des sortes de dyades entre le corrupteur et corrompu. J'aime pas trop employer corrupteur et corrompu, ben, ça fait très sale, ça fait très normatif. Alors qu'on a essayé, je ne vous l'ai peut-être pas dit, d'avoir une approche non normative de la corruption, et bien évidemment. C'est-à-dire que quand on voit les gens, on ne pense pas que ce sont des pourris, des voleurs, etc. Et qu'on essaye de le voir comme on étudierait, je ne sais pas quoi, un phénomène religieux ou un rituel ou la même chose. Donc, corrupteur corrompu, ce n'est pas très, très agréable comme vocabulaire. Donc, dans une transaction de ce genre, souvent, il y a constitution de relations durables. Par exemple, si vous êtes enceinte, l'un des problèmes, c'est de trouver une sage-femme qui ne va pas vous insulter, vous mépriser, etc. Les sages-femmes ont une réputation absolument exécrable dans toutes les villes d'Afrique. Et les deux, il se trouve qu'on a enquêté donc sur les deux professions qui sont celles qui ont la plus mauvaise réputation en Afrique, qui sont les sages-femmes et les douaniers. Les deux, c'est vraiment pas bien vu du tout par les gens. Je veux dire, c'est ça sur lequel vous branchez quelqu'un n'importe où dans une discussion dans une famille et plaf, sur les sages-femmes et les douaniers, vous en entendez tant et plus, c'est des professions maudites, etc. Les deux. Alors, les sages-femmes, donc l'intérêt, c'est d'essayer de trouver une sage-femme avec qui on joue une relation et on va vous parler de ma sage-femme. De même, la sage-femme dira mon passe. Au Niger, c'est le passe, c'est pour le passe droit. C'est le truc courant. Pour être bien soigné, il faut avoir un passe, être le passe d'un personnel de santé. C'est à peu près la seule façon d'avoir une garantie d'être au moins pas maltraité. Et donc, le passe, ce sont des relations durables. Ma sage-femme, mon passe. C'est la même chose, le commerçant va parler de son douanier. C'est celui qui l'attendra, dont il attendra qu'il soit en poste pour ce jour-là passer. Donc, on voit se constituer une sorte de relation pérenne des dyades, dans lesquelles vous voyez aussi qu'on ne peut pas faire porter simplement la responsabilité aux fonctionnaires. C'est évidemment tout autant l'usager qui est dedans. C'est un jeu où tout le monde se tient par la barbichette, où tout le monde est mêlé, et tout le monde est pris, en quelque sorte. En plus, souvent, ils partagent les mêmes lieux. Ils vont, les commerçants, les transitaires et les douaniers vont dans les mêmes, sont dans les mêmes, parfois, je dirais même les mêmes restos à côté. Ils partagent les mêmes règlements, la même connaissance d'un certain nombre de textes. Ce qui fait que ça rend très, très problématique une distinction très, très classique dans les études sur la corruption, qui d'ailleurs est un des rares travaux faits par un anthropologue, qui était un anthropologue et politologue américain. Il s'appelle James Scott. Et qui avait distingué en son temps entre parochial corruption et market corruption, la corruption de proximité, paroissiale si vous voulez, la corruption vicinale, de voisinage, et la corruption de marché, où il opposait ces deux formes. Mais là, ce qu'on a vu, c'est que justement, l'un se crée toujours l'autre. Une corruption de marché au départ devient une corruption de proximité et de voisinage. Une corruption de voisinage a toujours des éléments fortement monétaires, monétarisés, etc. Donc il est devenu à peu près impossible de faire fonctionner, si jamais elle avait pu fonctionner, ce type d'opposition. Une autre stratégie, troisième là pour le moment, c'est une recherche de l'enrichissement rapide. Donc c'est un peu, celle-là est en même temps, elle peut apparaître comme contradictoire, mais en tout cas, elle se combine parfois avec la précédente, c'est que pour un fonctionnaire, l'obtention d'un poste dit juteux, d'un poste à ressources, disons, informelles, implique d'en profiter le plus vite possible. Le plus vite possible. Il s'agit vraiment d'accumuler à toute vitesse. C'est le cas typique des postes de douane. Tel poste douanier se construit sa villa après un mois, un an dans un poste frontière. Mais c'est presque le cas, de façon générale, pour tous les postes qui ont des opportunités fortes de transactions illégales. Et ça, c'est évidemment associé à une rotation très rapide des fonctionnaires, qui fait qu'on ne sait pas ce que le lendemain vous réserve et qu'il faut se dépêcher de manger là où on peut manger. Dans le proverbe que tout le monde cite dans tous les pays africains, la chèvre mange où elle est attachée. C'est un des proverbes qui revient le plus souvent dans la corruption. On en a tout un inventaire, de proverbes sur la corruption, mais ça, c'est un must dans tous les pays africains. La chèvre, en même temps, elle mange le plus vite possible là où elle est attachée. Une quatrième stratégie, elle est optionnelle, mais on l'a vu parfois en œuvre, ce sont les mutualisations de la corruption. C'est-à-dire que bien souvent, dans un certain nombre de cas, c'est au niveau d'une équipe. Et les bénéfices ou les gains sont mis en commun et partagés. Alors, ils sont souvent partagés de façon horizontale, mais aussi, je vous l'ai dit, par l'intermédiaire des commissions rentières, aussi de façon verticale. Horizontale, par exemple, les équipes de garde, toujours les maternités. Désolé, j'espère qu'il n'y a pas trop de sages-femmes ici. Dans les maternités, l'équipe de garde, c'est l'unité. Et souvent, on met les bénéfices ensemble du racket que l'on fait aux dépens des femmes enceintes par un certain nombre de procédés, que je vous dirai si ça vous intéresse dans la discussion. Donc c'est mutualisé, comme une équipe de une brigade volante de douane, qui est un haut lieu de corruption, c'est en général mutualisé, plus redistribution au supérieur qui vous a envoyé ou qui ferme les yeux sur ce que vous faites. Donc, mutualisation ou pas. Un autre aspect, je ne sais plus encore, ça va être la cinquième, c'est l'importance de la connaissance des textes normatifs et réglementaires. Alors c'est curieux parce que les gens qui luttent contre la corruption disent que c'est parce que les fonctionnaires ne savent pas bien les règlements et on leur fait faire des formations pour savoir mieux les règlements. Mais bien souvent, la corruption se base justement sur une grande connaissance des règlements par lesquels on peut couillonner l'usager ou en tout cas lui créer un rapport de force qui lui est défavorable. Donc, d'une certaine façon, ça rend assez perplexe devant cette multiplication de formations réglementaires pour connaître, pour mieux essayer de lutter contre la corruption, parce que justement, la connaissance des textes réglementaires, la maîtrise d'un savoir technique que n'a pas le simple camionneur chez le transitaire, par exemple, est une grande ressource dont on se sert dans les transactions corruptives. Et aussi, c'est lié aussi au fait que souvent, dans beaucoup de postes de la fonction publique, il y a des pouvoirs discrétionnaires importants. Alors là, l'utilisation à l'extrême des pouvoirs discrétionnaires est aussi généralisée. Imaginez le rôle d'un juge sur la liberté provisoire. C'est quand même énorme. Il tient dans sa main la liberté d'un prévenu. Je vous étonnerai peut-être pas en disant que c'est l'une des principales sources de corruption, c'est les juges. C'est justement l'achat par le prisonnier via un certain nombre de réseaux d'intermédiaires de la liberté provisoire. C'est un des cas les plus fréquents. Mais c'est la même chose avec le pouvoir de transaction des douaniers. La capacité d'obtenir des transactions évidemment forte chez les douaniers, de négocier une amende. Et c'est sur cette base que s'engouffre alors, comme des flots, de grands flots de pratiques corruptives. Un autre aspect, sixième, les stratégies discursives. Alors, dans la maîtrise d'un double langage est presque une sorte de précondition dans ce système-là. Il y a un langage officiel, un langage pour l'extérieur, et il y a le langage de la vérité, fait de sous-entendus, de petits codes, etc., que nous avons détaillé dans l'article sur la sémiologie, mais qui exige de connaître les étiquettes. On ne donne pas un billet vulgairement, vous le savez. Il y a toute une étiquette. Toute une bienséance dans les rapports de corruption et qui souvent est liée aussi à une maîtrise, pas simplement de codes gestuels, mais aussi de codes langagiers importants et dans lesquels qui sont modélés, peut-être, on peut prendre le modèle du marchandage, mais qui va bien, bien au-delà de cela. Il y a une négociation qui est quelque sorte interne, consubstantielle à la corruption. Voilà, bon, énumération d'un quelque nombre de stratégies. Ce sont les principales que nous avons rencontrées dans tous les secteurs et dans tous les pays. On pourrait en trouver d'autres, mais là, je vous mets un peu les grandes lignes. Maintenant, en quoi ça se ça a un lien avec les pratiques administratives. Demandez en quelle mesure tout ceci est enchâssé dans l'État au quotidien, l'administration au quotidien. Un premier point, alors ça nous a beaucoup étonnés. Dans tous les trois pays, dans tous les trois secteurs, l'importance des bénévoles et de tout un petit monde d'auxiliaires, de supplétifs, non enregistrés sur les registres de l'administration et qui jouent une fonction importante dans leur relation avec l'usager. Prenez l'exemple d'un centre de santé. Dans la plupart des centres de santé, on peut avoir jusqu'à 30% de gens qui sont des secouristes, qui ont été formés en 3 mois par la Croix-Rouge, des infirmiers qui n'ont pas de poste, des matrones qui ont été formées en 15 jours dans un stage, etc. Et qui jouent un rôle souvent soignant important, qui pique, qui pense, etc. Et qui jouent un rôle de supplétif des titulaires, des officiels du poste, qui souvent d'ailleurs font autre chose aussi à leur place. Donc, et donc ce monde est extrêmement important. Il peut aller jusqu'à, je crois, au port de Cotonou. Il y a plusieurs centaines de transitaires non déclarés, informels, qui font les transactions à l'intérieur du port dans lequel personne normalement ne peut entrer sans badge, etc. Plusieurs centaines. Je ne sais pas si on n'est pas milliers, je ne me rappelle plus le chiffre ici, mais c'est énorme. Je crois qu'au port de Dakar, d'ailleurs, ça ne doit pas être, autant que je me rappelle, pas très différent. Mais partout, au port du palais de justice, vous les trouvez aussi. Des sortes de gens qui se proposent de vous présenter à des avocats, qui disent très bien connaître le juge, qui avait lui votre affaire, je vais vous arranger le coup, ou qui font les intermédiaires, les petits courtiers. Ce petit monde est une sorte de présence du secteur informel dans l'administration elle-même, dans les points de contact entre l'administration et les usagers. Évidemment, ça joue un rôle très important. Ils informalisent de l'intérieur l'administration. Ils jouent des rôles positifs parce qu'ils jouent des rôles de pilotage. Si vous arrivez dans un centre de santé et que vous n'aviez pas ce petit personnel pour vous aiguiller, vous êtes mort, presque parfois, hélas, au sens strict. Mais c'est la même chose si vous arrivez à un palais de justice, vous n'y comprenez rien. Vous arrivez, vous, d'un village de brousse, qu'est-ce que vous comprenez à ce machin? Et ils se précipitent sur vous et vous guident. Donc il joue un rôle aussi de relais. Mais en même temps, alors ce qui est important, c'est que la mémoire du service, je prends le service comme je dis un service d'hôpital ou un service, un poste douanier, c'est eux qui la font. Eux qui ne sont pourtant rien officiellement. Mais les infirmiers ou les douaniers, ils tournent. Ceux qui restent, ce sont ces bénévoles, c'est ce petit personnel qui reste. Et c'est lui qui reproduit une sorte, je dirais, de petite culture locale, faite de tours de main, de combines, de relations, de repérage de qui fait quoi, de qui fait qui. Merci. Bon, c'est eux qui savent que quand on fait une conférence, il faut amener le thé au bon moment. C'est eux qui font tout ce petit truc qui sont exactement le fonctionnement banal et ordinaire d'un service ou d'une institution. Eux qui, pourtant, ne sont pas patentés, ne sont pas des fonctionnaires en tant que tels. Alors, évidemment, en même temps, ils contribuent à la banalisation des pratiques illicites, parce qu'ils ne sont pas payés, ils n'ont pas de salaire. Comment il faut bien les rétribuer. Alors, voyez comment, à travers ce mécanisme qui est constant et permanent, la corruption s'enchasse dans le fonctionnement ordinaire de l'administration. On a la même chose qui est proche avec ce qu'on peut appeler le dédoublement des fonctions. C'est-à-dire, je vous disais que la fille de salle fait les piqûres ou le gardien fait les pansements. C'est très fréquent dans un dispensaire. Alors que fait l'infirmier? L'infirmier, lui, il consulte, il fait le docteur. Et que fait le docteur? Le docteur, il remplit les registres pour un truc de santé publique parce qu'il est sans arrêt en train de remplir des trucs pour des machines biologiques ou il est en stage, en formation, sans arrêt, etc. Et il y a donc une sorte de décalage permanent entre les fonctions réelles et les fonctions officielles. C'est parfois des surqualifications ou des sous-qualifications. Quand la sage-femme, par exemple, encore, la sage-femme, un des moyens qui a été développé souvent dans les maternités pour faire ce qu'on appelle la maternité sans risque, puisque le taux de mortalité maternelle est très fort, hein, y compris dans les formations sanitaires, ce qui est une catastrophe de santé publique dans tous les pays d'Afrique. Alors, il y a ce qu'on appelle le partogramme, qui est donc la prise de constante que doivent faire les sages-femmes, tension, machin, etc., et remplir un tableau. Et quand on sort des moyennes, on sait qu'il y a une sorte de signal d'alarme. Le problème, c'est que les sages-femmes qui ont subi cette formation, ce n'est pas elles. D'abord, en général, les appareils ne marchent pas. Et en plus, quand ils marchent, ce sont les filles de salle qui font les accouchements. les sages-femmes, elles, en fait, on s'aperçoit, remplissent le matin à la passation de service et remplissent des partogrammes bidons pour passer au suivant. Ce sont des pratiques courantes. Je veux dire, là, je ne peux pas vous dire que toutes le font, mais elles sont suffisamment courantes. Je ne sais pas, comme tout ce que je vous dis, on n'a pas de comptage. Je ne peux pas vous dire si c'est 30% ou 80%, mais c'est au moins 30%, c'est-à-dire beaucoup plus que ce ne devrait être dans les maternités, en tout cas, évidemment. Voilà, donc ce dédoublement, il y a donc un bouger permanent des hiérarchies et les organigrammes officiels ne disent rien des tâches réelles qui sont accomplies. Un autre aspect, bon, vous le connaissez, j'insiste pas, c'est la création systématique de files d'attente dans les administrations. Ça, c'est un problème bien connu des économistes. Donc, et là, on a toutes les études de cas possibles sur la création de files d'attente permanentes. Parfois réelles d'ailleurs, parfois structurelles, parfois organisées de façon systématique ou parfois même simulées. Et donc ça a un aspect évidemment auto-reproductif. Il est clair que par exemple, on avait vu beaucoup d'administrations ont des budgets de fonctionnement. Et en même temps, les gens se plaignent, vous avez tous vu ça, que lorsqu'on arrive pour avoir une pièce, il n'y a plus de carbone, il n'y a plus de papier pour le faire. Alors, comment ça se fait qu'il y a un budget de fonctionnement? Parce que les budgets de fonctionnement sont une des sources de la moyenne corruption systématique et donc sont tous utilisés par un certain nombre de fonctionnaires pour faire des fausses commandes de papeterie qui sont, sur lesquelles ils sont rétribués. Donc, ça n'arrive jamais. Donc, vous voyez ces côtés auto-reproductifs qui se font en permanence. Un autre phénomène, qu'on va aller, c'est la personnalisation des relations administratives. Autrement dit, on le voit facilement. Lorsque vous avez un problème à régler avec une administration, le mode d'emploi n'est jamais de se dire quelle est la procédure normale. Comment il faut faire pour régler un problème avec telle administration? Le réflexe immédiat de tout un chacun est de se dire qui je connais ou qui je peux connaître qui connaît quelqu'un là-dedans. Donc, c'est un système donc de personnalisation systématique. Et il est vrai que, l'anonyme est sans arrêt victime ou coincé. Parce qu'on est dans un univers, en quelque sorte, d'un côté de déshumanisation. Il est très clair dans les formations sanitaires, mais vous pouvez le voir aussi à la douane, celui qui n'est pas connu, celui que personne ne connaît, est totalement méprisé, non regardé, non pris en compte. Mais inversement, ce même infirmier ou ce même douanier qui vient mépriser, arrive quelqu'un qui lui est envoyé par un parent, un ami, un promotionnaire, etc., va le prendre en charge avec beaucoup de chaleur, va probablement quitter son poste pendant une heure ou deux pour le piloter dans le reste des services, etc. Donc on passe vite d'un anonymat complètement stigmatisant, enfin catastrophique, à une surpersonnalisation. Le problème, c'est qu'entre deux, il y a peu de place pour ce qui devrait être, ce qui est censé être le fonctionnement ordinaire des administrations, ce qui est censé, d'après les textes et les normes, en Afrique même. Je ne dis pas ça d'un point de vue occidental, je dis par rapport aux règles qui sont celles mêmes des États africains qui ont été, et des administrations africaines qui ont été évidemment modelées ou copiées sur les systèmes occidentaux, et que phénomène que tout le monde connaît. Un autre aspect, c'est l'existence d'une impunité quasi généralisée, la culture d'impunité. On est dans un système où il est à peu près impossible pour quelqu'un qui veut sanctionner quelqu'un de son service d'arriver à le sanctionner. Ça a été une plainte systématique, on a toujours entendu dans tous les domaines, tous les services. Pourquoi? Parce que simplement, le sanctionné va immédiatement mobiliser des réseaux sociaux, des réseaux professionnels, lui aussi son propre réseau personnel, et que ça va revenir dans tous les sens pour soit plaider, soit interdire s'il a suffisamment de pistons en haut, pour interdire la sanction. Donc on est un système d'impunité absolument généralisé, et ce qui fait que, d'ailleurs vous le voyez bien, les seuls gens que l'on prend en quelque sorte pour des histoires de corruption, c'est beaucoup plus pour des règlements de compte politiques que parce que de fait on applique des normes anonymes et qu'ils ont fait, une maladresse. C'est bien évidemment les cas de corruption qui sont traités dans nos tribunaux sont le plus souvent des règlements de compte, mais ne mettent pas en question cette culture d'impunité qui est généralisée. Et dans ceci, on l'a trouvé dans tous les services. Un dernier, bon, encore un dernier, non, il y en a, ouais, enfin, allez, encore un ou deux, puis on s'arrête. Un autre, c'est ce qu'on pourrait appeler le chacun pour soi. Il est assez frappant de voir qu'il y a très peu de travail coopératif à l'intérieur de l'administration, et qu'au fond, c'est chacun se démerde, mais je n'ai pas le droit d'intervenir dans le domaine de quelqu'un d'autre, même s'il est mon subordonné. C'est son problème. Qui le fait bien, qui le fait mal, je n'ai pas à me mêler de ses affaires. C'est un peu comme si chaque fonctionnaire était dans une bulle dans laquelle personne n'a le droit d'entrer. On peut habiter à deux ou trois, d'ailleurs, la même bulle. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas incompatible. Mais le côté de chacun pour soi, évidemment favorable à ce mépris de l'usager ou à l'absence de prise en compte des intérêts des clients, des administrations. Enfin, ce qu'on pourrait appeler le privilégisme, ce que je vous disais un peu tout à l'heure, toute fonction d'État, toute fonction publique, mais y compris celle d'être gardien, d'être planton, donne accès à un certain nombre d'avantages de fonctions. Et on les étend à l'infini. Il est clair que l'ambulance sert essentiellement à faire les courses du directeur du centre de santé ou aller chercher les repas du personnel à la cantine, mais pas à évacuer les malades. Et que s'ils l'évacuent, ils doivent de toute façon payer l'essence parce que les tickets d'essence ont été utilisés par les personnels du centre de santé pour eux ou pour donner à leurs amis. Donc cette sorte d'avantage de fonction systématique est tendue à l'infini et aussi une des constantes que nous avons rencontrées. Et vous voyez comment tous ces différents éléments du fonctionnement quotidien des administrations sont difficilement séparables de ce que peut être la corruption au sens un peu strict. Il y a d'autres éléments, je les passe, et je veux juste terminer sur le point suivant, c'est qu'au fond, tout se passe comme si, ça c'est une phrase de sociologue ou d'anthropologue, tout se passe comme si, tout se passe comme si on avait affaire à une sorte de privatisation interne, de privatisation informelle de l'État. Comme si, au fond, ce fameux secteur informel qu'on a souvent décrit, constaté dans l'Afrique, ces coping strategies, ces stratégies de débrouille, de démerde, etc., qui ont souvent été vues de façon d'ailleurs favorable, comme des moyens de pallier aux déficiences de l'État, de pallier aux problèmes de l'économie de marché, déferlement de l'économie de marché, voire de contrer la mondialisation, etc. Et tout se passe comme si tout ce secteur informel, petit à petit, grignotait l'État de l'intérieur et que l'État devenait privatisé informellement. Ce n'est pas la privatisation de la Banque mondiale auquel on assiste. Ce n'est pas les opérations de privatisation des grands éléphants blancs, des sociétés mixtes, de télécoms, d'Odo, etc. Ce n'est pas Vivendi dont je parle. Ce n'est pas ce genre de processus. Il existe par ailleurs, mais ce n'est pas de ça. C'est une sorte de privatisation interne qui est en train de se développer. Elle est d'ailleurs interne parce que, de plus en plus, pour que les agents du service public puissent même remplir plus vaguement, tant bien que mal, et la mission, ils sont obligés de vendre en quelque sorte leurs services. Mais ça peut être aussi l'argument qui est souvent donné par les gendarmes, c'est de dire mais je suis bien obligé de prendre de l'argent auprès des commerçants, des passagers, des transitaires, parce que c'est avec ça que je peux acheter de l'essence pour la voiture de la brigade ou acheter du papier pour la brigade. Bon, évidemment, il ne fait pas qu'acheter de papier pour la brigade. Tout le monde se sert aussi. Mais ça va un petit peu ensemble, cette informalisation. Et on n'est pas très loin, d'une certaine façon, d'une forme de vénalité des charges, d'ailleurs, qui était celle de l'État d'Ancien Régime. Si on veut faire des comparaisons historiques, d'ailleurs, l'État, ça ne veut pas dire que l'État ne fonctionne pas, mais l'État peut fonctionner de façon privatisée. On a des exemples historiques de l'État fonctionnant de façon quasiment privatisée sur l'État, par exemple en Europe, l'État d'Ancien Régime, au moins en tout cas l'État français. Mais la privatisation informelle peut aussi être externe dans la mesure où de plus en plus, ce sont des extérieurs à l'État qui remplissent ses fonctions. Au Sénégal, la distribution du courrier est assurée dans les campagnes essentiellement par les commerçants, y compris le courrier administratif. Alors, vous voyez, les policiers qui, sans arrêt, ont recours à ces commerçants pour envoyer leurs lettres, leurs courriers, sont évidemment relativement bienveillants avec les mêmes commerçants en échange. Donc, on a, et puis tout ce petit monde de petits courtiers, de petits, supplétifs renforce aussi cette forme d'informalisation interne dont je vous avais parlé. Alors, au bout du compte, eh bien, qu'est-ce qu'on est ? On est dans ce qu'on peut appeler assez clairement un cercle vicieux. C'est-à-dire que plus on pense. Le cercle vicieux, d'ailleurs, il se met même au niveau des représentations. Plus vous pensez qu'il y a de la corruption, plus vous soudoyez les gens parce que vous pensez que c'est le seul moyen de vous en sortir. Et ça explique. Enfin, ça explique. Ouais, ça explique en partie cette sorte d'ambivalence dont je vous parlais au début dans les représentations. À la fois, vous le condamnez parce que vous voyez bien que c'est un truc qui ne marche pas bien, que vous en êtes victime une fois sur deux, ou avant chacun son tour, et à la fois, vous y avez vous-même recours. Les mêmes gens qui dénoncent les passes en disant « je fais la queue pendant 4 heures devant le dispensaire », parce que c'est comme ça que ça se passe, et puis arrive quelqu'un de bien habillé, ou arrive la cousine de l'infirmière, plup, elle passe devant, j'ai les boules. Elle a même dit, mais moi, évidemment, si moi je la connais, je suis la première à faire ça. On est vraiment dans une sorte de cercle vicieux. Et on peut le voir aussi sous l'angle de l'incertitude. La corruption, au fond, est un moyen de gestion de l'incertitude. Dans ce monde où il y a des règles mouvantes qu'on ne connaît pas bien et où il faut sans arrêt négocier non seulement les transactions, mais aussi les règles sur lesquelles les transactions s'opèrent, la corruption est un moyen de gestion de l'incertitude. Mais évidemment, en même temps, plus on la fait, plus elle accroît à son tour. L'incertitude. Et donc, on est dans cette sorte de cercle vicieux sur lequel tout le monde, dont actuellement tout le monde se plaint.